Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus un vendredi soir. Je sais que c'est un soir difficile pour beaucoup de monde. Merci d'être là. Merci aux professeurs d'être parmi nous. Pour ceux, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la liste optimiste, en fait, c'est un mouvement romantico-surréaliste qui est né il y a un peu plus de 3 ans et qui compte aujourd'hui 3000 membres. Et donc, l'idée, c'est de, comment dirais-je, d'élever, enfin de participer à l'élévation de la conscience du monde, comment dirais-je, avec légèreté. Donc, je dirais, avec un peu de surréalisme à la belge. Voilà. Alors, je voulais vous dire très rapidement que nous avons constitué, il y a quelques semaines, la Ligue des optimistes aux Pays-Bas, et que bientôt, la Ligue des optimistes de France verra le jour aussi.
Voilà. Ça viendra vraiment sur le...
Juste un petit mot, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Laurent Ledoux, je suis responsable avec plusieurs amis, mais ce soir, Roland n'est pas là, Roland Bachelet, donc de philosophie et management, et donc c'est un partenariat entre la Ligue et philosophie et management que cette conférence, et en fait tout le cycle qui va suivre. Alors, ce cycle, c'est aujourd'hui qu'il commence. Il y a eu, pour ceux qui ne le savent pas, une séance inaugurale qui a eu lieu la semaine passée, en présence et avec Christian Arnsberger, qui est parmi nous ce soir également. Allô ? Oui. Et donc, en fait, l'idée de notre cycle de conférences et de séminaires a été orchestrée autour du livre de Christian, qui s'appelle « L'éthique de l'existence post-capitaliste », où il déconstruit, si vous le voulez, les axiomes du capitalisme actuel pour ensuite essayer de proposer des axiomes alternatifs. Peut-être un peu plus loin quand même. D'accord. Ça va comme ça ? C'est bon ? Alors, et l'un de ces axiomes, c'est l'axiome de concurrence. Et c'est donc à cette occasion que nous avons demandé aux professeurs Pierre Dardot et Christian Laval de nous parler de leur dernier livre et de leur thèse, je dirais, qui est un essai sur la société néolibérale et qui s'appelle La nouvelle raison du monde. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a une série d'exemplaires qui sont à disposition ici sur la cheminée. Vous pouvez les consulter à la fin de l'exposé, et ainsi qu'une série d'autres livres qui sont liés au thème que nous abordons ce soir. Voilà. Je leur cède tout de suite la parole. Je ne sais pas à qui je dois le donner. D'abord à Pierre ou à Christian. Voilà.
Bonsoir. Je suis Christian Laval et je suis avec mon acolyte. Ça va comme ça pour le son ? Oui ? Avec mon acolyte, donc Pierre Dardot, avec lequel nous avons écrit un ouvrage, un gros ouvrage, et pas forcément très, très optimiste, lui. Je ne sais pas s'il a des dimensions surréalistes, mais en tout cas, il ne pêche pas de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si nous adhérerons à la Ligue des optimistes, nous verrons au vu du programme. Au fond, d'abord, on vous remercie d'être venu et de nous accueillir. Merci à nos hôtes, et puis Laurent Ledoux, qui a organisé cette soirée, pour avoir des échanges avec vous, puisqu'on va faire une présentation l'un et l'autre, et de façon alternée, sur, disons, les grandes lignes de notre ouvrage. Ce n'est pas pour vous économiser la peine de le lire, au contraire. Bon, mais au fond, c'est pour déjà donner un peu les bases de discussion de ce soir. Alors, pour commencer, juste quelques mots. Au fond, ce soir, nous vous parlons du néolibéralisme à un moment historique. Beaucoup de gens disent qu'on vit un moment historique qui est celui de la réorganisation du monde économique. Certains parlent de moralisation même du capitalisme. Au fond, on se rappelle que l'année dernière, après la faillite de Lehman Brothers, donc il y a un an à peu près exactement, très vite, on a dit que le néolibéralisme était fini, qu'on tournait la page d'une longue période, durant laquelle un certain nombre d'axiomes, si l'on veut, ou de principes qui avaient été mis en œuvre pendant des années par des gouvernements, finalement, cette période prenait fin avec cette gigantesque catastrophe financière dont nous n'avons pas fini de payer, et, c'est qu'à le dire, les contribuables en particulier, de payer les dégâts. Et des grands esprits, par exemple le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, en septembre de l'année dernière, avait écrit un papier qui s'appelle « La fin du néolibéralisme ». Comme nous sortions le livre en janvier, on s'est un peu inquiété, parce qu'on s'est dit « Zut, vraiment, là, on tombe mal, si vraiment là, il y a la fin du néolibéralisme, là, vraiment, on s'est pris un peu trop tard ». Nous commencions notre ouvrage, justement, qui est paru donc en janvier, mais on l'avait déjà écrit, nous commencions notre ouvrage par cette phrase « Nous n'en avons pas fini avec le néolibéralisme ». À une période où, je dirais que beaucoup de gens, et bien au-delà de Stiglitz, beaucoup de gens donc disaient que nous étions entrés dans une nouvelle période. Donc on était à contre-courant. Et au fond, un an après, nous sommes très contents d'avoir écrit cette phrase, parce que je crois que ce que nous vivons tous aujourd'hui, cette période que nous traversons, c'est au fond un drôle de suspens. On a l'impression que, en effet, ce qui était prévu, c'est-à-dire une grande réforme, ce qui était annoncé, une grande réforme du capitalisme, de nouvelles règles, de nouveaux principes d'organisation de l'économie et de la société, au fond, on a l'impression que cette perspective de transformation est derrière nous. C'est-à-dire qu'au fond, on recommence comme avant. Et Stiglitz, la semaine dernière, dans un journal français qui s'appelle Libération, répondait à un journaliste qui lui demandait si les choses avaient changé, si la finance avait changé, disait oui, les choses ont changé, le système financier a changé, et il ajoutait en pire. Donc c'était pour vous dire que Joseph Stiglitz n'est pas non plus prêt, je crois, d'adhérer à la Ligue des optimistes. Je veux dire simplement qu'il a révisé profondément son jugement. Et je crois que ça donne un petit peu le sens de ce soir et de notre interrogation ce soir. Finalement, qu'en est-il du néolibéralisme ? Est-ce que finalement, on n'a pas confondu beaucoup de choses lorsque on a critiqué ou accepté le néolibéralisme ? Est-ce qu'au fond, on s'entend sur le mot lui-même ? Et évidemment, est-ce qu'on s'entend sur la chose ? Pour dire les choses un peu directement, pour nous, le néolibéralisme, c'est... Non seulement il n'est pas fini, mais c'est vraiment pour nous le principe d'organisation durable, non seulement de l'économie, non seulement de la finance, mais même c'est devenu un principe structurant de la société, c'est-à-dire des rapports sociaux. Et je dirais même ça a gagné très profondément les rapports sociaux et les rapports politiques. Et c'est ça au fond, qu'on voudrait un peu expliquer ce soir, évidemment, sans tous les détails qu'on a apportés dans le bouquin. Alors, bon, si vous regardez le plan, je vois que vous avez un plan, quand même, pour l'étudiant. Vous avez un plan, bon, c'est bien. Alors, la première partie s'intitule « Pourquoi il importe de ne pas confondre libéralisme et néolibéralisme ?» Voilà, et donc, nous nous sommes attribués les parties, et c'est moi qui vous colle sur cette première partie. Mais, donc, je voudrais simplement d'abord relever la confusion souvent faite entre libéralisme et néolibéralisme. Un certain nombre de gens se disent libéraux, d'autres se disent anti-libéraux, mais au fond, de quoi parle-t-il ? Est-ce que le néolibéralisme d'aujourd'hui, de la fin, disons, du XXe siècle et du début du XXIe siècle, est-ce que c'est la même chose que le libéralisme, disons, classique, tel qu'il est né à la fin du XVIIe siècle et tel qu'il s'est constitué doctrinalement, philosophiquement, au XVIIIe siècle? Eh bien, nous avons voulu apporter une clarification. Non, il faut absolument, il est très important de différencier les deux. Parce que l'un et l'autre ne répondent pas à la même logique. Le libéralisme, d'abord, le libéralisme classique n'est pas entièrement homogène. On apprend ça dans l'école, qu'il y a un libéralisme moral, un libéralisme politique, un libéralisme économique, et qu'il y a des tensions entre ces différentes sortes de libéralisme. Mais je crois que surtout, il faut retenir que le libéralisme répond à une question. Le libéralisme classique répond à une question extrêmement importante au XVIIe et au XVIIIe siècle, une question d'époque, donc, qu'il faut recontextualiser, c'est comment limiter le pouvoir du gouvernement. Comment limiter le gouvernement, à la fois dans les instruments qu'il utilise et aussi dans le champ, dans son champ d'intervention. Limiter le gouvernement, ça voulait dire plusieurs choses à l'époque. Ça voulait dire que, au fond, la société elle-même, la société civile, comme on l'appelait à l'époque, était en quelque sorte douée ou dotée de mécanismes qui lui permettaient de fonctionner sans l'intervention constante et sourcilleuse et détaillée du gouvernement. Il fallait poser, et c'est les économistes qui l'ont fait, il fallait poser qu'il y avait des mécanismes autorégulateurs et une interdépendance très, très profonde et qui poussait à l'équilibre, une interdépendance des intérêts privés des individus. C'est-à-dire que pour laisser faire, comme on disait, laisser faire et laisser entreprendre et laisser circuler les produits, il fallait d'abord étayer cette revendication politique d'une démonstration scientifique. Nous sommes à l'âge de la science. La science économique va essayer de se modeler sur la science physique de l'époque et va essayer de montrer, comme Newton l'avait fait, que finalement, il y a des systèmes d'équilibre qui s'établissent et qui permettent donc aux gouvernants de laisser faire cette société. Donc les économistes, et en particulier le grand Adam Smith, ont imposé, je veux dire pour l'histoire, cette idée que l'individu doté d'un certain nombre de principes régulateurs, c'est-à-dire poursuivant son plaisir, fuyant la douleur, etc., cet homme économique, finalement, pouvait être laissé dans, je ne dirais pas dans la nature, mais justement dans la société, à condition, évidemment, comme le diront d'autres, d'être encadré, de connaître les lois et de les respecter. Et puis, il y a un autre courant, évidemment, une autre forme de libéralisme, d'ailleurs, qui peut s'accrocher, s'articuler à celui dont je viens de parler, qui est le libéralisme moral et politique, et qui part essentiellement de l'idée que l'individu est doté de droits innés, et de droits sacrés, de droits inaliénables, qui constituent autant de limites au gouvernement. Et donc vous avez toute cette tradition juridico-philosophique qui est celle du droit naturel ou du juste naturalisme, comme on dit. Donc vous avez déjà plusieurs formes de libéralisme, et vous voyez que toutes ces formes, et c'est ça qui importe de retenir, sont des démonstrations, en quelque sorte, argumentent dans le sens de la limite du gouvernement. Et ça a donné, donc, au plus tard, au XIXe siècle, eh bien, une idéologie, des doctrines et des pratiques politiques qui étaient plutôt favorables à ce qu'on appelait le laisser-faire. Donc le free trade, en anglais, c'est cette idée que toute politique qui libère, qui supprime des lois, donc encourage la liberté de faire, d'entreprise et de circulation des marchandises est une bonne politique. Mais, pas trop compliquer les choses, mais ce libéralisme, donc, ne serait pas complet, la description n'en serait pas complète si on ne renvoyait pas à un autre courant qui sera très important dans toute l'histoire occidentale, qui est le courant qu'on appelle le courant utilitariste et dont la grande figure est un philosophe et juriste anglais qui est Jeremy Bentham et qui fait du principe d'utilité non seulement le principe, je dirais, du fonctionnement des petits humains que nous sommes, mais fait surtout du principe d'utilité le principe du gouvernement. C'est-à-dire que, au fond, là, la limite du gouvernement n'est pas extérieure, elle est intérieure, c'est-à-dire au fond, toute politique à mener sera jugée bonne, devra être exécutée à condition que ses effets soient positifs, en tout cas que les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs. Cet utilitarisme donc continuera sa vie et deviendra même une dimension extrêmement importante de toutes les formes de gouvernement jusqu'à nos jours. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire que notre nos principes politiques sont extrêmement marqués par cette idée qui est devenue de fait banale. Bon. Alors voilà, poser déjà ce qu'on peut entendre par libéralisme. Vous voyez, c'est pas tout à fait simple, et quand on se dit libéral ou quand on se dit anti-libéral, d'une certaine façon, on devrait être encouragé à clarifier le type de libéralisme auquel on se réfère. Et encore, j'ai simplifié. Mais, au fond, quelle différence avec le néolibéralisme ? Bien, pour le dire, là aussi, vite, mais je suis quand même long, il faut bien comprendre que le libéralisme classique a connu une très profonde crise à partir de la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 30. C'est-à-dire qu'on a une crise croissante, et les problèmes que nous nous posons aujourd'hui ne sont absolument pas nouveaux. L'idée qu'il y a des dangers dans le laisser-faire, des dangers économiques, parce que les crises économiques, ce n'est pas nouveau non plus. Elles étaient à répétition dès les années 1830, même un peu avant. Donc les crises économiques, c'était connu. La crise sociale, je veux dire, non seulement les conflits sociaux, mais également l'idée très forte à la fin du 19e siècle, très très forte, selon laquelle ce laisser-faire qui encourageait les intérêts individuels était un principe d'atomisation de la société. Et qu'elle faisait de la société, comme on le disait beaucoup au 19e siècle, un tas de poussière, un tas de grains de sable. Voilà ce qu'était la société. Il n'y avait plus de lien entre les individus. Et tous ces éléments ont mis véritablement en crise les dogmes du laisser-faire et ont conduit toute une série de gens à d'abord regarder du côté du socialisme naissant et à corriger le libéralisme, à vouloir le refonder. Et on a eu des courants multiples de toutes sortes qui ont essayé de refaire un nouveau libéralisme ou un libéralisme réformateur appelé encore libéralisme social, avec des influences multiples, socialistes, chrétiennes, etc. Bon. Et ça dure jusqu'aux années 30. Une des figures de ce nouveau libéralisme, par exemple, c'était en Angleterre la figure éminente du grand économiste Keynes, qui a été très très marqué par tous ces courants. Keynes n'est pas né de rien, il est vraiment s'inscrit dans ces courants réformateurs. Des gens qui veulent réformer le capitalisme pour éviter tous les dangers que j'ai dit. Aux États-Unis, même chose. Aux États-Unis, il y a beaucoup de courants qui vont dans ce sens-là. Bon, arrivent les guerres, arrive la Grande Dépression de 1929. Et là, effectivement, il y a des choses semblables à ce qui nous est arrivé récemment. Tout se casse la figure brutalement. La spéculation aboutit aux États-Unis à cet effondrement brutal qui conduit à une crise majeure sur le plan économique, mais sur le plan social aussi, avec un quart de la main-d'œuvre aux États-Unis qui se retrouve très rapidement au chômage, avec des crises politiques majeures en Europe qui donnent naissance au fascisme, au nazisme, etc. Bon, l'histoire est bien connue, c'est un désastre total sur tous les plans. À ce moment-là, la crise du libéralisme devient extrêmement violente, et en particulier en Europe, où toute une série de gens, d'intellectuels, de penseurs, de responsables politiques et de responsables économiques se disent « Bon, maintenant, ça suffit, il faut vraiment refonder intellectuellement le libéralisme, parce qu'il a en effet conduit à des catastrophes que nous n'avons pas su arrêter, endiguer, etc. » Et survient alors quelque chose de tout à fait nouveau qui va être le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la refondation intellectuelle du libéralisme dans les années 30 et qui prend une figure singulière. Laquelle ? C'est de dire que, au fond, un régime de concurrence, un régime même de concurrence très forte, de sélection économique et de sélection sociale, n'est pas mauvais en soi, à condition que le cadre juridico-politique, d'une part, le permette de fonctionner dans de bonnes conditions, et à condition également que l'État puisse en corriger les défauts, en particulier sur le plan social. Et cette phase, cette refondation du néolibéralisme, on peut l'identifier historiquement, c'est toujours un peu arbitraire évidemment de poser les choses ainsi, à un moment historique important qui est le colloque qui se tient à Paris en 1938, le colloque Walter Lippmann. Walter Lippmann est un publiciste, un journaliste américain déjà connu à l'époque et qui a écrit à ce moment-là, juste un peu avant, un ouvrage qui s'appelle donc la bonne société, qu'on traduira en français parce qu'en français on a problème avec les traductions, donc The Good Society sera traduit par la Cité Libre. Bon, c'était une traduction un peu libre, voilà. Bon, mais que dit Lippmann ? Lippmann, c'était quelqu'un qui avait soutenu le New Deal à ses débuts même, c'est quelqu'un qui était un grand ami de Keynes, mais lui est plutôt tout à fait partisan du système capitaliste et du système concurrentiel, à condition que ce système fonctionne selon des règles, selon un code, et que ce code ne peut pas venir de lui-même. Il rompt, voilà, pour le dire les choses un peu carrément, il rompt avec l'idée que le marché serait naturel. Le marché n'est pas naturel, le marché est une construction à la fois historique, un produit historique, et il ne peut fonctionner qu'avec des règles. Et ça donne naissance à quelque chose de nouveau dans l'histoire de la pensée. Ça a l'air de rien, mais c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on abandonne l'idée, chère à beaucoup jusqu'à présent, que le marché était une réalité naturelle. Alors, ça, c'est très important, parce que, au fond, les néolibéraux, après la guerre, j'enjambe la Deuxième Guerre mondiale, les néolibéraux vont, en particulier les néolibéraux très importants en Allemagne, vont, au fond, je dirais, pour dire les choses là aussi vite, trop vite, prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir en Allemagne, en RFA, ce sont les ordolibéraux qui vont profondément influencer cette politique, c'est-à-dire l'idée qu'on va fonder un nouvel État, un État de droit, sur un marché qui sera construit politiquement. Cette idée, qui est d'autant plus importante, qu'elle va profondément influencer la construction européenne. La construction européenne peut difficilement être comprise en dehors de ces schémas doctrinaux posés dans les années 30, en particulier par un Allemand qui s'appelle Walter Eugen, qui est un des grands économistes de ce courant ordo-libéral. C'est l'idée que, au fond, l'ordre économique, selon leur expression, l'ordre économique doit venir d'une politique de cadre, une politique ordonnatrice, qui fixe le cadre de la concurrence, et qui, donc, sans ce cadre, ne pourrait pas fonctionner. Alors, il n'y a pas que la politique du cadre, il y a aussi une politique, je dirais, d'entretien, de fonctionnement d'une économie concurrentielle, mais, en tout cas, il faut toujours ce cadre, et ce cadre est un produit politique. Et l'on construira, en effet, l'Europe, finalement, comme un marché institutionnel, c'est-à-dire qui est doté d'institutions, sans lequel il ne pourrait pas fonctionner. Et je crois que si on regarde un peu, on pourra en discuter tout à l'heure, l'histoire du marché européen, du grand marché européen, donc est bien l'histoire de ce néolibéralisme, je dirais, mis en pratique, pour le dire rapidement. Bon. Alors, lorsqu'on se dit libéral ou anti-libéral, souvent on se réfère encore aujourd'hui à cette idée de naturalité du marché. Alors nous, ce que nous avons voulu dire, c'est que nous n'en sommes plus du tout là, plus du tout là, et que s'il y a encore quelques ultra-libéraux ici ou là, ou quelques gens ignorants de l'histoire, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, ça se peut. Mais en tout cas, toute l'histoire du XXe siècle a montré qu'on avait quitté cette illusion et que la grande leçon à tirer du néolibéralisme, je dis bien la grande leçon à tirer du néolibéralisme, c'est que, en effet, un fonctionnement économique et un fonctionnement social ne peut pas se fonder sur l'idée d'une nature, comme au XVIIIe siècle. Ce naturalisme est derrière nous, il est fini. Désormais, il est question de politique. Et c'est extrêmement important parce que ce qui a été construit politiquement peut être défait politiquement. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une perspective, évidemment, de sortie éventuelle d'un système qui pourrait présenter des défauts assez considérables. Et je vais passer la parole à Pierre qui commencera à présenter les choses sous un autre angle.
En transition, plus ou moins bien assurée. Oui, alors nous avons utilisé à plusieurs reprises dans le livre, et c'est une notion à laquelle nous tenons beaucoup, le concept de rationalité. Nous avons parlé donc à plusieurs reprises de la rationalité néolibérale. Pour l'instant, ce que Christian vient de mettre en évidence, ce sont des différences, ce sont donc parfois même des contrastes sur le plan des doctrines, sur le plan intellectuel, pourrait-on dire. Ce qui sépare donc les théoriciens, pourrait-on dire, du néolibéralisme des théoriciens du libéralisme classique. Or, la notion de rationalité, elle permet de mettre le doigt, de mettre l'accent sur quelque chose d'assez différent. Il ne s'agit plus essentiellement de comparer comme ça la cohérence de telle ou telle doctrine et puis de dire, tiens, là-dessus, il y a une divergence. Bon. La notion de rationalité, nous l'avons empruntée à un philosophe français dont nous nous réclamons, qui est Michel Foucault. Cette notion de rationalité, il l'a élaborée plutôt vers la fin, disons vraiment, oui, la dernière partie de sa trajectoire intellectuelle, fin des années 70, début des années 80. On peut dire que c'est à ce moment-là que cette notion se trouve véritablement élaborée. Que veut-elle dire et quel est l'intérêt d'appliquer donc cette notion de rationalité à ce que nous connaissons par ailleurs sous le nom de néolibéralisme ? Bien, l'idée maîtresse, à mon avis, de Michel Foucault, c'est que quand on parle de rationalité, on ne parle pas justement d'idéologie. D'habitude, les gens qui parlent du néolibéralisme, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, ont tendance à réduire le néolibéralisme à une idéologie. Ils disent, voilà, c'est très simple. Alors, s'ils sont contre, ils disent, par exemple, qu'il y a un certain nombre d'universitaires qui ont commencé à se réunir de façon plus ou moins secrète et puis qui ont gagné en influence, qui ont converti les politiques à leur idéologie, de telle sorte que ces politiques eux-mêmes ont fait en sorte que cette idéologie soit appliquée. Voilà. Et puis finalement, les gens qui, à l'inverse, sont plutôt favorables au néolibéralisme, tiennent parfois, paradoxalement, le même discours. C'est-à-dire disent, en effet, il y a eu une grande campagne intellectuelle avec, ce qui est indéniable d'ailleurs, des groupes de pression, des lobbies, des think tanks, etc. Et puis, on a abouti par un mécanisme de conversion des dirigeants politiques à la mise en place d'une politique qui a été décidée comme ça de bout en bout. Et il nous semble que d'un côté comme de l'autre, il y a une même illusion. Et l'illusion, c'est précisément celle que Foucault voulait absolument combattre et défaire lorsqu'il essayait de mettre en valeur cette idée de rationalité. Alors, qu'est-ce que c'est justement qu'une rationalité au sens propre du terme ? Il nous semble que la meilleure définition qu'on puisse en donner, c'est que c'est une logique qui commande de l'intérieur ce que les hommes font, c'est-à-dire leur pratique. On peut dire, je vais expliciter bien sûr cette définition, que c'est une logique des pratiques. J'emprunte d'ailleurs l'expression à Michel Foucault. Logique des pratiques, il utilise à plusieurs reprises cette idée-là. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font, ce que les hommes font. La pratique, c'est ce que les hommes font. Et la logique des pratiques, c'est la logique d'après laquelle ils agissent, tout simplement. Ce qui est assez remarquable avec Foucault, c'est que justement, il nous donne les moyens de penser que la manière dont les gens agissent, les normes en fonction desquelles ils agissent, ne sont pas nécessairement les valeurs auxquelles ils adhèrent. Et qu'il y a là deux choses qui sont différentes. Parce que justement, si on raisonne uniquement en termes d'idéologie, on dira à ce moment-là, tiens, celui-là a telle idéologie, donc il professe un certain nombre de valeurs, donc il va nécessairement se conduire d'après ces valeurs. Erreur, dit Michel Foucault, parce qu'il est des situations ou des conditions où les individus sont amenés à se conduire en fonction d'une certaine logique, qui peut être, par exemple, on y reviendra, celle de la concurrence, alors qu'eux-mêmes ne sont pas particulièrement de farouches défenseurs de la concurrence. Tout simplement parce qu'on les a placés dans une certaine situation, on les a mis dans certaines conditions, et qu'une fois qu'on les a placés dans ces conditions, eh bien à ce moment-là, j'allais presque dire, il n'y a même pas besoin d'user de la contrainte. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire finalement d'eux-mêmes ce que l'on voudrait qu'ils fassent, mais on n'aura pas besoin de leur dire « faites ceci ». On n'aura pas besoin de les contraindre, de leur enjoindre, de leur fixer un objectif sur le mode de la pure et simple violence. Bon. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre dans cette idée, c'est que en matière notamment de philosophie politique, pendant très longtemps, c'est une idée qui remonte aux Grecs, on a eu tendance à considérer finalement que gouverner, c'était d'abord et avant tout contraindre. Et la plupart des gens, vous leur demandez ce que c'est que gouverner. Je ne dis pas qu'ils apportent exactement la vieille réponse qui était celle de Platon, mais c'est presque ça, commander. Voilà. Il y a un mot grec qui signifie justement la fois commander, gouverner. Donc, c'est vraiment une très très ancienne idée. Alors, il nous est apparu que parler de rationalité à propos du néolibéralisme, ça présentait un avantage. C'était un gain en matière de compréhension et d'intelligence qui pour nous est absolument fantastique. C'est que on pouvait parfaitement comprendre que quelqu'un qui gouverne n'est pas justement un commandant. Il lui suffisait de placer les individus dans certaines conditions pour que précisément ces individus en viennent à se conformer à certaines normes. Alors même, encore une fois, que eux-mêmes, sur le plan par exemple des valeurs ou des croyances, ne subissaient pas une attraction intellectuelle particulière pour ce genre de normes. Je prends quelques exemples pour vous montrer de quoi il peut être question. Si vous placez justement des individus dans une situation telle que vous leur signifiez que entre eux, il y aura une relation de compétition qui sera telle qu'au bout d'un certain temps, par exemple, deux ou trois d'entre eux seront pénalisés dans leur propre travail s'ils n'ont pas réussi à subir, entre guillemets, l'épreuve de façon convaincante. Eh bien, à ce moment-là, vous les placez dans une situation où ils vont avoir à intérioriser la règle du jeu. Qu'ils disent « la concurrence c'est pas beau » ou « la concurrence c'est bien », c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils vont être placés dans une situation telle que, de toute façon, ils vont se convaincre par leur expérience que la règle, c'est soit en effet je l'emporte sur les autres, soit c'est moi qui me fais éjecter, pour parler assez trivialement. Et il nous a semblé que cette notion de rationalité éclairait énormément de choses dans la logique même qui était celle de notre monde contemporain. Et que parler justement du néolibéralisme comme rationalité, c'était beaucoup plus éclairant pour la compréhension de notre monde que de parler du néolibéralisme comme idéologie, en disant par exemple qu'il y avait Hayek, et puis Milton Friedman, et puis d'autres, les affreux gourous de telle ou telle université qui ont réussi à convaincre telle politique, etc. Et je pense que nous sommes finalement, pour le dire très crûment, en plein dedans. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis maintenant quelques mois montre à l'évidence que nous ne sommes absolument pas sortis de cette rationalité. C'est une rationalité qui continue de prévaloir, avec des variantes, certes, mais il y a toujours finalement cette idée qu'il suffit de placer des individus dans des conditions. Finalement, l'idée que je voudrais exprimer de manière relativement ramassée, c'est que quand on parle du néolibéralisme comme rationalité, ce qui est en question, c'est pas tant la contrainte qu'une volonté exerce sur une autre volonté que la contrainte des situations. Voilà. C'est la contrainte d'une mise en situation. On peut dire d'une mise en condition, mais il vaut mieux pas parler de conditionnement au sens où on parle de conditionnement psychologique à propos d'une propagande de masse, parce que c'est pas du tout ça, c'est pas la même chose. Ça opère de façon différente. Donc ça opère pas du tout par influence intellectuelle, pas du tout par séduction idéologique. Ça opère d'une autre manière. Et c'est peut-être justement aussi un gage d'efficacité, le fait que ça opère de cette manière-là au niveau des pratiques, sans requérir l'adhésion intellectuelle. Et il nous a semblé que c'était véritablement très éclairant. Alors, pour le dire d'un mot, enfin de quelques mots, quels sont les grands traits de cette rationalité que nous appelons donc la rationalité néolibérale? À la fin du livre, nous en donnons quatre. Il y en a une, première, qui recoupe un petit peu ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est que la rationalité néolibérale assume de façon tout à fait précise le fait que le marché n'est pas quelque chose qui existe naturellement. Le marché, c'est quelque chose qui est construit. Et dans la mesure où c'est quelque chose qui est construit, ça requiert l'intervention de l'État. L'intervention de l'État, c'est pas uniquement l'État, vous savez, dans un certain libéralisme de la fin du 19e, on parlait de l'État veilleur de nuit, qui devait protéger les citoyens. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit d'un État qui doit intervenir d'abord pour créer le marché, en fixant des règles, et puis ensuite pour faire respecter les règles une fois celles-ci installées. Donc c'est le deuxième point. Premier point, donc, un marché qui n'est pas une donnée naturelle, mais quelque chose de construit. Deuxièmement, cette construction requiert l'intervention de l'État qui doit fixer des règles juridiques. C'est lui, justement, qui est le grand gardien des règles juridiques. Et puis, Troisième point, ces règles juridiques, et c'est un point assez important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont pas des règles juridiques qui sont celles du droit public. Hein, traditionnellement, quand on considère l'État comme étant gardien d'intérêt général, on pense d'abord et avant tout aux catégories du droit public. On dit qu'il y a une organisation de l'État qui relève d'un droit qui s'appelle le droit public, qui n'est pas la même chose que le droit privé. Le droit privé, c'est ce qui concerne les relations entre particuliers ou entre les entreprises, les contrats, par exemple, entre les personnes, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec l'État. Ça, c'est la vision traditionnelle. Dans la rationalité néolibérale, justement, les choses changent. C'est-à-dire que les catégories qui tendent à dominer l'intervention de l'État, ce sont des catégories qui sont celles du droit privé. Ce qui ne veut pas dire que les catégories du droit public sont abolies, on s'en fiche, on les désactive, on les neutralise, on les met de côté. Et puis, troisième point, ce qui est très important aussi, ces catégories du droit privé, donc les catégories du contrat, les catégories de toutes les relations d'affaires qui peuvent exister par exemple entre des individus, ce sont des catégories que l'État va s'appliquer à lui-même. Donc il y a deuxième point, donc c'était l'idée que l'État doit intervenir pour faire respecter les règles du droit privé dans le marché. Et le troisième point, c'est que ces catégories du droit privé, l'État doit se les appliquer à lui-même. L'idée, donc, c'est celle d'une auto-transformation de l'État. L'État qui se transforme lui-même en s'appliquant à lui-même les règles du droit privé qu'il doit faire respecter sur le marché. Donc ça veut dire, pour dire les choses très rapidement, qu'il doit non seulement faire respecter les règles de la concurrence, qu'il a lui-même codifié sous la forme de règles juridiques, mais il doit s'appliquer à lui-même les normes du droit privé, donc les normes de la concurrence. Donc ça veut dire une transformation en profondeur de l'État lui-même qui conduit à ce que les anglo-saxons appellent le corporate state, c'est-à-dire l'État entrepreneurial, et pas l'État corporatiste comme on l'a lu dans une très mauvaise traduction dans un bouquin publié en français. Tout ça, c'est des erreurs monstrueuses, mais ça fait assez mal. Bon, et bon, ça ne me concernait pas. Mais, quatrième point, donc, concernant cette rationalité néolibérale, quatrième et dernier point, ce qui est important également, c'est que il est question, à travers cette intervention de l'État, d'étendre la logique du droit privé, qui est donc la logique de la concurrence, au fonctionnement des individus eux-mêmes. C'est-à-dire, et c'est là une nouveauté, il faut imaginer, ça n'a vraiment rien à voir avec le libéralisme classique de ce point de vue-là. Je ne dis pas que ça s'oppose, je dis que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que le régime de fonctionnement de l'individu doit être un régime d'entreprise. Ce qui veut dire que l'individu est amené à se considérer par des mécanismes d'incitation comme lui-même une entreprise. Et à cet égard, on parle souvent d'entreprise de soi. Très courant d'entendre dans un certain vocabulaire parler d'entreprise de soi. Donc chaque individu doit se considérer lui-même comme une petite entreprise en relation de concurrence avec les autres individus qui sont autant d'autres entreprises. Donc ce qui est important dans cette idée donc, de la rationalité néolibérale, c'est que finalement on cherche, via l'intervention de l'État, à étendre la logique du marché à d'autres secteurs que le marché stricto sensu. On cherche à étendre la logique du marché, non seulement à l'État lui-même, mais aux individus eux-mêmes, dans la façon dont ils fonctionnent en tant qu'individus. Donc c'est assez important. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme. C'est une rationalité donc, qui prétend, c'est pour ça que nous avons dit ça, raison du monde. En fait, nous voulions indiquer que c'était une rationalité qui était globale, au sens que le terme peut avoir en anglais, c'est-à-dire pour signifier à la fois que ça fonctionnait d'emblée à l'échelle mondiale, et qu'en même temps que c'était global, parce que ça ne laissait aucun secteur de l'existence humaine hors de sa portée. Voilà. Donc c'est ça, ce que nous appelons rationalité néolibérale. Donc il nous apparaît que la crise que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas une petite crise, parce que c'est la crise de cette rationalité qui est globale. Donc crise d'une rationalité globale, ben, ça signifie que la crise est globale. Elle ne peut pas être autre chose. Ce n'est pas du tout une petite crise sectorielle, parce que précisément la rationalité qui est en crise est elle-même globale. Donc, ce n'est pas un petit dysfonctionnement mineur qu'on pourrait comme ça surmonter avec des petites mesures passagères. Voilà, je passe la parole à Christian. Je crois qu'il faut être beaucoup plus court sur les deux autres points.
On a déjà consommé, je crois. On a déjà consommé notre temps.
Oui, oui, il faudrait bon. Quasiment oui. Dire.
Donc, presque tout l'idée que ça soit quand même énorme ce qu'on a à dire. C'est énorme.
Ça, on vous annonce ce soir une crise globale, hein, une crise de la rationalité globale. Donc,
c'est romantique, c'est réaliste.
C'est, oui, c'est romantique, je sais pas si c'est romantique. Donc, voilà, si en effet le monde, comme ça, le monde, à la fois le monde au sens de la planète et le monde social, ce dans quoi nous vivons, est structuré par une logique des pratiques qui est ordonnée à la norme de la concurrence. En effet, cela rend, je dirais, quasiment impensable une crise simplement sectorielle qui serait limitée, par exemple, à une finance parasitaire qui aurait, en quelque sorte, contaminé ou empoisonné la bonne économie réelle qui fonctionnerait selon des normes absolument saines et qui aurait aussi touché une société qui, au fond, ne serait que victime. Bon. Toute la représentation qu'on a aujourd'hui, que l'on nous donne aujourd'hui, que l'on se fait de la crise financière, est, à notre avis, à remettre complètement en cause. Je veux dire, d'une part, mais ça serait long aussi à l'expliquer, la finance mondialisée, la finance globale, la finance de marché telle qu'elle s'est construite, on ne peut pas la penser dans son histoire en dehors de transformations beaucoup plus générales, en particulier ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est-à-dire le type de réponse qui a été apportée à la crise du profit, à la crise de la profitabilité du capitalisme des années 60-70. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une réponse, si vous voulez, à ces difficultés économiques qui ont été dans le sens de la construction d'un grand marché mondial, d'un capitalisme mondialisé, avec toute une série de politiques qui ont été mises en œuvre. Et ça a donné lieu à des effets de boucle, des effets d'enchaînement, si vous voulez, qui ont poussé à une exacerbation de la concurrence entre les grands oligopoles mondiaux, qui ont donné naissance à cette finance de marché fonctionnant sur une concurrence de plus en plus forte et qui aboutissent également à des prises de risques de plus en plus considérables des acteurs financiers et des acteurs économiques dans leur ensemble. En tout cas, à des tensions de plus en plus fortes. Bon. Donc, la crise financière, il faudrait pouvoir, si vous voulez, la situer dans cette histoire de la mise en concurrence de plus en plus forte, de plus en plus intensive entre les économies. Mais ça ne suffirait pas, au fond, à décrire, je dirais, l'ampleur de la crise de la rationalité dans laquelle nous sommes. Au fond, de multiples symptômes sont apparus ces 10 ou 15 dernières années dans différents domaines et ont été mises en évidence aussi bien par les économistes, mais aussi par les sociologues et par les psychanalystes, psychologues ou psychiatres. Et nous pensons que nous ne pouvons plus rester dans des logiques sectorielles, c'est-à-dire regarder simplement la crise financière ou la crise économique sans prendre en compte, justement de façon globale, ce qui se dit chez les sociologues et chez les psychanalystes. Chez les sociologues, qu'est-ce qui apparaît, en particulier chez les sociologues du travail? Il apparaît une transformation majeure du monde du travail, justement du fait des techniques, des pratiques, des dispositifs qui ont été mis en place pour répondre, pour s'adapter à l'intensité de la concurrence entre les entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire que la constitution d'un marché mondial et l'intensification de la concurrence ont laissé indemnes les entreprises et l'univers professionnel. Bien au contraire. Ce que l'on voit aujourd'hui, par exemple en France, on parle beaucoup des suicides dans certaines entreprises, comme France Télécom, qui en 17 mois ont eu 25 suicides. Bon, c'est 2 ou 3 ans après la même vague de suicides que nous avons eu à Renault, entreprise Renault. Et on comptabilise maintenant 400 suicides par an liés directement au stress professionnel. Donc ceci, et maintenant on fait les gros titres des journaux, mais évidemment c'est quelque chose qui a été depuis pas mal d'années étudié, examiné de près par des psychanalystes du travail, des psychanalystes qui s'intéressent à la souffrance au travail, et par des sociologues qui disent quoi? Qui disent les collectifs sont en ruine, les collectifs dans les entreprises. Les solidarités sont défaites. les individus sont laissés à eux-mêmes. On a amené les travailleurs à travailler sans autrui, sans les autres. Pire, on les a amenés à travailler contre les autres. Et ceci a entraîné une sorte de démoralisation du monde du travail. C'est-à-dire que le sens du métier lui-même est atteint. Parce qu'il n'y a pas de sens professionnel, de goût et de sens pratique dans ce que l'on fait sans des valeurs collectivement partagées. Et c'est aujourd'hui un constat largement partagé qui commence à gagner les milieux du management, qui commence à entendre ce que depuis 15 ans un certain nombre de gens ont dit, c'est que la société, je reprends un titre, commençait à être malade de la concurrence, une maladie de la concurrence. Alors il y a des ouvrages qui sont parus sur la société malade du management, etc., ou malade de la gestion. Mais derrière cette idée de management et de gestion, il faut bien voir que c'est un management et une gestion très spécifique. Très spécifique, c'est pas le management ou la gestion en elle-même ou en lui-même qui sont en question. C'est le type de management qui a été mis en place pour répondre justement aux logiques concurrentielles et pour s'y conformer et pour développer chez les individus justement toute une série de pratiques qui correspondent tout à fait à ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire des mises en situation dans les entreprises où on met les gens face à des objectifs, à des contrats d'objectifs, enfin tout ça est bien connu, à des systèmes d'évaluation individuels, etc., qui conduisent à cet effondrement des collectifs auquel on assiste. Mais plus encore, et là on a regardé du côté des psychanalystes, alors sans entrer dans les différentes écoles, etc., mais au fond, ce qu'on a entendu, là, on a fait une espèce d'écoute des psychanalystes, ce qu'on a entendu, là, de ce côté-là, c'était un constat qui coïncidait, qui était tout à fait homogène avec ce qu'on entendait du côté des sociologues, c'est-à-dire, au fond, l'idée d'une crise de la subjectivité. Non seulement on voyait se développer des pathologies que certains psy considèrent comme des pathologies nouvelles, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais au fond, on entendait des effets, vous voyez, des descriptions d'effets dépressifs de masse, des épuisements de soi, des effondrements de la personnalité. On parle également de perversion au quotidien dans les rapports d'instrumentalisation entre les gens, en particulier dans le monde du travail. Et ça va jusqu'à ce diagnostic qui est fait par le psychanalyste belge Jean-Pierre Lebrun, qui parle de néo-sujet, d'un nouveau sujet qui finalement apparaîtrait donc et fonctionnerait et arriverait en tout cas, je dirais, aux oreilles des psychanalystes. Alors là aussi, bon, on prend ces diagnostics avec prudence, nous ne sommes pas des psychanalystes, des psychologues, mais au fond, il nous a semblé qu'il y avait là quelque chose d'intéressant à mettre en relation avec les analyses que nous faisions. C'est-à-dire, au fond, il nous semble que si les individus sont en effet mis en situation de concurrence généralisée, si on leur enjoint d'une certaine façon dans les pratiques de se changer, de se transformer en espèce d'être de compétition fait pour la compétition sans les autres et contre les autres, il nous semble assez logique que du côté des subjectivités on puisse faire le constat sur les divans ou dans les cabinets de changements assez notables. Et en tout cas, ça nous a semblé digne d'être retenu. Et plus loin encore, finalement, du côté de la crise, il nous semble tout à fait important de mettre en rapport aussi bien les phénomènes de crise économique auxquels on assiste, avec des crises sociales, des crises de déchirement du tissu social, et puis des crises subjectives. Ce qui nous semble aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un point, je dirais, où on sent des formes de saturation, si vous voulez, du système de normes dans lequel nous sommes. Parce qu'au fond, pour dire les choses comme ça, il n'y a pas qu'au travail où les pressions se font pour atteindre les objectifs. C'est dans la vie courante, Enfin, si on veut donner des exemples des mises en situation concurrentielle que nous sommes obligés de vivre, les calculs que nous sommes obligés de faire, les stratégies que nous sommes obligés de déployer pour s'en sortir, pour ne pas être perdant, sont multiples. On a l'impression de ne pas en sortir. Il faut toujours calculer. Enfin, son logement, où va-t-on se loger? Les phénomènes de spéculation foncière sont absolument considérables. Et là aussi, ils font l'objet de stratégies multiples et de stratégies concurrentielles entre les individus, entre les groupes sociaux, pour acquérir des logements dans les beaux quartiers, éviter des mauvais. Le marché scolaire, tout parent aujourd'hui, enfin, c'est un peu, peut-être un peu plus nouveau en France, vous connaissez peut-être ça depuis plus longtemps, mais le marché scolaire est une relative nouveauté en France. C'est-à-dire, pendant longtemps, jusque dans les années 60-70, les écoles se valaient à peu près toutes, les collèges et les lycées se valaient à peu près toutes. Il n'y avait pas cette pression pour mettre son enfant dans la bonne école, dans le bon collège et le bon lycée, et dans la bonne université. Bon, tout ça fait une pression considérable, et l'hôpital, ça devient en France tout à fait de la même sorte, relève de la même logique, pour se soigner lorsqu'on est malade, etc. C'est pareil, il y a en même temps cette logique de concurrence qui est apparue. Et ça, pour les choses les plus simples, je veux dire, c'est peut-être tout à fait anecdotique et dérisoire, mais si vous voulez, c'est pour montrer l'accumulation, la pression, prendre son billet de train. Enfin, on a vu, effectivement, on nous a offert des tas de formules différentes, son électricité, etc. C'est-à-dire tout ce régime de concurrence encouragé par la politique de la Commission européenne aboutit à un certain nombre de fonctionnements sociaux qui n'ont sans doute pas été évalués dans tous leurs aspects. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on nous a dit pendant longtemps, c'est que le consommateur était gagnant. Voilà. Mais on a oublié que ça signifiait également que tout allait devenir consommation, d'une certaine façon, et allait obéir, au fond, à des modes de calcul et à des situations de mise en concurrence qui allaient s'exercer de l'intérieur, même si on n'adhérait pas à ce type de logique. Finalement, nous sommes sans cesse obligés de nous y adapter. Alors, ce n'est pas radicalement nouveau, mais je dirais qu'il y a des phénomènes cumulatifs qui s'opèrent et des formes de pression qui s'opèrent et qui font qu'un certain nombre de gens, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, sont en situation, je dirais, de crise personnelle, de crise subjective. Et tout ça a, je termine là-dessus, tout ça a un coût invisible, je veux dire un coût très difficilement, en tout cas mesurable. Dans une civilisation du chiffre, dans une politique du chiffre où il faut obtenir des objectifs, il y a des coûts de plus en plus considérables dans la vie sociale et dans la vie subjective qui ne sont pas pris en compte. Donc au fond, c'est pour ça que nous avons fait un article au moment de la crise, on a fait un article où ça s'est terminé là-dessus. C'était l'année dernière, on nous interrogeait sur la crise, comment on voyait la crise, et on fait un petit papier dans un journal dans Le Monde, qu'on a intitulé « Vers le crack du sujet néolibéral, vers le crack du néo-sujet ». C'est-à-dire, au fond, la question qui est à notre avis, alors vous voyez, on va très loin dans la noirceur, ce qui nous guette, nous semble-t-il, c'est ce sont des crises qui nous atteindraient, je dirais, au plus profond de nous-mêmes. Puisque si nous n'avons pas complètement tort, le système de normes, en fait, nous transforme de l'intérieur, dans notre intimité même. Et c'est sans doute ce qui est le plus, je dirais, le plus intéressant, peut-être le plus important, en tout cas, dans les formes de crise que nous commençons à vivre et que nous vivrons peut-être.
Bon, je te laisse terminer.
Un peu d'espoir, l'espoir arrive.
Petite note optimiste quand même. Non, mais je crois que, bon, la dernière question, on y reviendra sans doute dans la discussion, je ne voudrais pas être vraiment trop long, mais je crois qu'on a été un peu trop long, mais simplement je voudrais dire que quand on parle de cette rationalité, on parle d'une rationalité qui est dominante. Mais pour nous, le fait de dire qu'elle est dominante ne signifie pas que c'est la seule. Ça n'est pas la rationalité, ça n'est pas une rationalité exclusive, pour le dire d'un terme. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que s'il n'y en avait pas d'autres, de toute façon, je pense que le lien social lui-même serait vraiment très directement menacé. Bon. Donc, fort heureusement, il y en a d'autres. Alors, ce sont des rationalités qui sont souterraines, qui opèrent plus discrètement, qui sont dominés, qui sont subordonnés, par conséquent, puisqu'il y a une rationalité dominante, mais ce sont des rationalités qui sont à l'œuvre dans certaines pratiques sociales. Donc ce sont des pratiques sociales qui sont des pratiques de coopération, d'échange, bon, qui ne revêtent pas nécessairement, et souvent d'ailleurs qui ne revêtent pas le caractère d'une transaction. Donc il faut à cet égard faire très attention, parce qu'il y a souvent une sorte d'équivoque concernant le sens du mot coopération. Il arrive en particulier que certains, parmi y compris les défenseurs les plus zélés de la rationalité néolibérale, parlent de coopération en célébrant justement les avantages de la coopération, mais il faut voir de quelle sorte de coopération il s'agit. Je veux dire par là que, par exemple, à propos d'alliances stratégiques entre des firmes concurrentes, on a parlé de coopération. On en a parlé assez souvent entre, je sais pas moi, Toshiba et Siemens, c'était un terme qui est d'ailleurs assez souvent revenu. On a même forgé un néologisme dans la langue, dans une certaine noble langue, bon, mais assez répandu finalement, celui de coopétition. On a forgé ce néologisme pour signifier que la coopération et la compétition se mariaient parfaitement. Mais à ce moment-là, ce qu'on entend par coopération, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on entend avec Christian à la fin de l'ouvrage, dans la mesure où ce sont des échanges de savoir entre des grandes firmes concurrentes sur des technologies de pointe, en général, qui sont absolument pas destinées à amoindrir la concurrence, mais qui au contraire servent la concurrence entre les firmes. Donc effectivement, c'est pas du tout contradictoire avec cette logique. Or, ce que nous entendons par les pratiques de coopération, qui existent, de toute façon, même au travail, même à supposer qu'on mette tous les gens en situation d'hostilité les uns à l'égard des autres, on ne peut pas totalement anéantir la dimension coopérative du travail humain, c'est pas possible. Bon. Ce que nous entendons donc par coopération, c'est une sorte de mise en commun, par exemple sur le plan des expériences ou des savoirs, qui n'a absolument rien à faire avec la logique d'une transaction. Ce qu'on pourrait appeler donc une mise en commun non transactionnelle. Une manière de définir donc la coopération. Et nous pensons qu'il y a des logiques de coopération qui existent au plan du travail, et pas simplement au plan du travail, au-delà de la sphère même du travail. Et ce sont des logiques sur lesquelles il faut prendre appui pour promouvoir justement une rationalité alternative. Donc ce que je voudrais simplement indiquer, parce que ça suffit, on a parlé assez longtemps, mais ce que je voudrais simplement indiquer, c'est que cette rationalité alternative, on ne peut pas la décréter. On ne peut pas dire, voilà exactement ce que c'est, ça ressemble à ça, ça a ce qu'on peut, etc. C'est quelque chose qui doit se construire à partir de pratiques sociales qui existent déjà. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc effectivement, on n'a pas pu aborder tout, même juste pour que vous compreniez bien la logique en fait de nos conférences et séminaires. Le but est que dans la conférence, comme ce soir, les orateurs apportent leur thèse principale pour alors, le samedi matin, développer en fait la discussion autour de ce que cela peut signifier pour les entreprises, pour les managers. Et donc, effectivement, le séminaire que nous allons avoir demain matin rebondira sur ce que Pierre vient de dire maintenant. Quelles sont les logiques alternatives et que pourraient-elles signifier si on veut essayer de les mettre en pratique dans l'entreprise? Donc, peut-être beaucoup d'optimisme, mais c'est aussi pour cela qu'on est ici. Mais enfin,
je vous souhaite bonne nuit en même temps.
Le but maintenant alors est de discuter ensemble, de débattre ensemble à partir donc de